Voici une question dont la réponse épatera sûrement tous nos auditeurs. Qui a créé l'univers? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui nous remplira d'émerveillement, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je pense sincèrement que la parole de Dieu va nous ouvrir les yeux devant la toute-puissance et l'amour de Dieu, alors que l'Épître aux Hébreux va répondre à chacune de nos questions aujourd'hui. Les voici donc sans plus tarder. Qui a créé l'univers? Qui nous révèle Dieu le Père aujourd'hui? Qui fait fonctionner l'univers? Comment Jésus nous a-t-il purifiés de nos péchés? Est-ce que son acte rédempteur est entièrement accompli? Pouvons-nous y ajouter quelque chose? Est-ce que Jésus exerce encore un ministère? Est-il vivant? Restez avec nous. Le Seigneur est sur le point de répondre à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir tout ce bon enseignement qu'il veut nous donner. Prions. Oui, Seigneur, on te demande de disposer nos cœurs, d'enlever de nos pensées toutes les choses de notre quotidien. On veut être concentré uniquement sur toi, Seigneur, avec des cœurs pleins d'amour, pleins d'adoration pour toi, parce que tu es notre Dieu et qu'on sait que tu vas nous enseigner la vérité. Touche nos cœurs, Seigneur, transforme nos vies par ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. L'Épître aux Hébreux nous présente le Seigneur Jésus-Christ. À la dernière émission, nous avons souligné le fait que la Bible présuppose l'existence de Dieu. L'intelligence humaine ne peut pas prouver ou nier l'existence de Dieu par des raisonnements logiques. La science ne peut pas confirmer ou nier l'existence de Dieu. Nous savons que Dieu existe parce que la nature nous parle d'un Créateur et parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur. La Bible présuppose aussi que Dieu a parlé. Il est normal que le Dieu créateur de l'univers se fasse connaître à ses créatures, qu'il a doué d'intelligence. Dieu s'est révélé à l'humanité au cours de l'histoire, et il l'a fait progressivement. Il s'est révélé à Abraham, et il lui a promis de faire de lui une grande nation. Plus tard, il a parlé à Moïse, et il lui a donné la loi qu'il n'avait pas donnée à Abraham. De plus, il a dit à David qu'un descendant serait le roi et il serait aussi le sauveur de l'humanité. Finalement, c'est par Jésus-Christ que Dieu a complété sa révélation une fois pour toutes. Dieu s'est servi de nombreux auteurs pour rédiger la Bible. Ces auteurs provenaient de différents arrière-plans. Ils avaient différents dons et chacun avait sa propre personnalité. Dieu a utilisé tous ces hommes sur une période d'environ 1500 ans. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur parce qu'il est l'héritier de toutes choses. Nous sommes ses co-héritiers. Seulement, il faut faire une distinction entre un héritier et un co-héritier. Un co-héritier ne gère pas le patrimoine dont il hérite, mais il reçoit une part des revenus de celui-ci. Le Seigneur Jésus, étant l'héritier, il gère le patrimoine. Il a obtenu ce patrimoine en récupérant ce qu'Adam avait perdu en péchant contre Dieu. Le Seigneur Jésus nous a donné l'usufruit de son patrimoine, c'est-à-dire le droit légal de jouir d'une propriété qui lui appartient. Nous avons terminé la dernière émission en soulignant le fait que le Seigneur Jésus a tout créé et tout fait pour une raison. Nous reprenons cette idée aujourd'hui. Débutons notre lecture d'Hébreux chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Jésus-Christ est le Créateur de l'univers avec le Père et le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est le Créateur de notre univers et il a posé cet acte créateur avec un but. Aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que l'univers est laissé à lui-même, comme si les étoiles se déplaçaient dans l'univers et dans le temps, comme une automobile qui a perdu son conducteur. Cependant, c'est intéressant de noter qu'une auto qui n'a plus son chauffeur entre en collision avec quelque chose, alors que l'univers s'en tire bien sans chauffeur. Les planètes suivent un orbite précis autour du Soleil et il est possible de prédire leur position longtemps d'avance pour y envoyer des satellites et des sondes spatiales. On peut même poser une sonde sur une comète, tellement les trajectoires des corps célestes sont prévisibles. L'univers n'est pas à la dérive. Notre univers n'est pas hors contrôle, mais il est régi par des lois, et le Seigneur Jésus a un but pour cet univers. Poursuivons la lecture de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce verset contient des énoncés merveilleux et stupéfiants. Le Seigneur Jésus est le reflet et le rayonnement de la gloire de Dieu. Le mot grec traduit « reflet » a aussi le sens de « rayonnement ». Le Seigneur Jésus est le reflet et le rayonnement de la gloire de Dieu. Le soleil illustre bien ce principe. Nous ne pouvons pas apprécier toute la gloire du soleil en le regardant directement car il nous aveugle. Cependant, les rayons du soleil nous procurent la lumière de jour et de la chaleur. Le soleil se manifeste par l'effet de ses rayons. De même, nous en aurions très peu au sujet de Dieu si le Fils n'était pas venu nous le révéler. Le Seigneur Jésus est le reflet ou le rayonnement de ce que nous percevons. Personne n'a vu Dieu. Mais nous le connaissons à cause de son Fils Jésus-Christ. Tout comme le rayonnement solaire, avec sa lumière et sa chaleur, me fait connaître quelque chose au sujet du soleil, de même, le Seigneur nous révèle le Père aujourd'hui. Lors de la transfiguration, nous avons eu un aperçu de la gloire de Dieu et de Jésus-Christ. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu chapitre 17, verset 2. Les apôtres n'avaient que des yeux humains pour voir la gloire de Dieu. Lorsque nous aurons nos propres corps glorifiés, la gloire de Dieu sera encore plus resplendissante à nos yeux. Le Seigneur Jésus est une reproduction exacte de Dieu, l'empreinte de sa personne. Le mot grec traduit empreinte est caractère. Vous avez sûrement noté que ce mot est la racine du mot français « caractère ». Le mot grec « caractère » signifie l'expression exacte, l'image d'une personne ou d'une chose, une reproduction précise en tout point, un fac-simili. Le Seigneur Jésus révèle Dieu parce qu'il est Dieu. Il n'est pas qu'une gravure sur une plaque ou une impression sur une page. Il est une reproduction exacte de Dieu. L'apôtre Paul a dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Citation de Colossiens, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur Jésus est un être merveilleux. Le caractère de Jésus-Christ nous révèle le caractère de Dieu. Étant pleinement Dieu, Jésus-Christ a manifesté le caractère du Père céleste. Il a manifesté son amour, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, sa condescendance, sa sagesse, sa patience, sa sainteté, sa justice, sa souveraineté, sa sévérité, sa véracité, son omniscience, son omniprésence et sa puissance. Les revoici un à un, son amour. Le Seigneur Jésus a abandonné sa gloire céleste afin de prendre un corps humain et souffrir à notre place. Il a accepté d'être notre substitut et de mourir sur la croix pour nos péchés. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Voilà une grande marque d'amour. Sa grâce. Dieu nous sauve gratuitement et sans que nous le méritions. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Jésus-Christ nous a révélé l'immensité de la grâce de Dieu. car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Sa bonté. Nous avons vu la bonté de Dieu en action lorsqu'il a pardonné à la femme surprise en état d'adultère, lorsqu'il a accueilli Marie Magdala, les pauvres, les infirmes et les pécheurs, bref, ceux que les pharisiens bien pensants rejetaient. Sa miséricorde. Celle-ci a été merveilleusement illustrée lorsqu'il a pardonné au malfaiteur qui mourait à côté de lui sur une croix. Cet homme n'a jamais pu rien faire pour mériter la grâce de Dieu. En fait, personne ne peut la mériter. Il s'est tourné vers Jésus, après s'être moqué de lui, et celui-ci lui a assuré qu'il serait au paradis le jour même. Vous pouvez lire ce récit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, et l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Sa condescendance. Le Seigneur Jésus a accepté de quitter sa gloire céleste pour venir habiter parmi nous, une race de pécheurs. Il ne peut y avoir plus grande condescendance que celle-ci. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, nous dit Philippiens chapitre 2, verset 7. Sa sagesse. Le plan rédempteur de Dieu selon lequel il a envoyé son Fils donner sa vie pour nous racheter de nos péchés démontre sa sagesse infinie. Il a trouvé un moyen de nous pardonner tout en demeurant saint et juste. Même enfant, le Seigneur reflétait la sagesse divine. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 40. Sa patience. La patience du Seigneur Jésus et de Dieu se manifeste dans ce qu'il nous donne l'occasion de nous repentir. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Sa sainteté. Jésus-Christ a vécu 33 ans sur terre sans commettre de péché. Sa justice. Afin de laisser aucun péché impuni, le Seigneur Jésus a accepté d'être puni à la place de ceux qui se repentiraient et croiraient en lui. Dieu est juste, tous les péchés seront punis. Sa souveraineté. Lors de la tentation, Satan a offert tous les royaumes de la terre au Seigneur Jésus. Cependant, ce n'est pas Satan qui règne, mais le Seigneur. Satan ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus a rencontré des démoniaques, les mauvais esprits lui obéissaient. Dans un cas, ils ont demandé la permission d'aller dans les pourceaux. Sa sévérité. Elle s'est manifestée lorsque le Seigneur a maudit les scribes et les pharisiens. Sa véracité. Tout ce que le Seigneur Jésus a dit à son sujet s'est accompli. Il a aussi accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Son omniscience. Jésus a reflété l'omniscience de Dieu par sa compréhension de l'Écriture, par sa connaissance du cœur humain et par sa prescience de tous les événements qu'il concernait. Son omniprésence. Jésus a reflété l'omniprésence de Dieu en faisant des guérisons à distance et en ayant aperçu Nathanaël sous le figuier avant de le rencontrer. Son omnipotence. Les miracles qu'accomplit le Seigneur Jésus étaient un rayonnement de la toute-puissance divine. Le Seigneur Jésus nous maintient en existence. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le petit enfant que Marie tenait dans ses bras à Bethléem aurait pu dire un mot et notre univers aurait cessé d'exister. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Non seulement a-t-il créé tout ce qui existe, mais les maintient continuellement en existence. Avez-vous déjà réfléchi à l'immensité de la puissance requise pour maintenir l'univers en existence? L'homme connaît à peu près rien au sujet de cette puissance, mais il a appris quelques petites choses. Par exemple, les scientifiques ont découvert que si l'on divise un atome, une très petite particule de matière, on libère une énorme quantité d'énergie. C'est selon ce principe que fonctionne la bombe atomique. Qui est-ce qui a mis toute cette puissance dans l'atome? Qui est-ce qui tient ensemble tous ces innombrables milliards de petits atomes? C'est le Seigneur Jésus. Il a créé l'univers pour un but bien précis. C'est lui qui préserve toutes choses. Il a tout créé par sa parole et par cette même parole, il tient l'univers ensemble. Si le Seigneur ne supervisait pas son univers et s'il ne le maintenait pas, tout se désintégrerait. Il n'est pas comme Atlas, le dieu de la mythologie grecque, qui tient passivement la voûte du ciel sur ses épaules. Le Seigneur Jésus est activement occupé à maintenir son univers en existence. Cela demande autant de puissance que de le créer en premier lieu. Le Fils de Dieu fait fonctionner l'univers et veille sur son bon déroulement. C'est une des activités étonnantes et fascinantes qu'il fait aujourd'hui. Le Seigneur Jésus ne soutient pas seulement sa création, mais par sa providence, il soutient aussi son programme pour son univers, en particulier pour ce qui se passe sur la terre. Il a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est ce que nous lisons dans Proverbes 16, verset 4. Dieu a prévu une suite d'actions, un programme pour atteindre son but. Dieu nourrit donc ses créatures, il pourvoit aux besoins de l'humanité, des croyants comme des impies. Il élève, console et discipline des individus. Il en rabaisse d'autres. Il établit les rois et les chefs d'État. Il gouverne sa création. Le Seigneur soutient toute chose par sa parole puissante. Rien n'est laissé à la chance ou au hasard. Jésus a purifié nos péchés par sa crucifixion. Il a fait la purification des péchés. C'est le Seigneur Jésus qui a pourvu le nécessaire pour la purification de nos péchés. En souffrant une mort atroce sur la croix, le Seigneur Jésus a payé pour tous les péchés de ceux qui croiraient en lui. Il a été puni à leur place. Il n'y a pas de purgatoire ni d'enfer pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Le Seigneur Jésus règle la question pour tous ceux qui se repentent et qui viennent à lui. Le Seigneur Jésus est merveilleux. C'est par sa mort sur la croix qu'il a fait la purification de nos péchés. Aujourd'hui, Dieu nous accepte parce que nous sommes dans son Fils bien-aimé. Le Seigneur Jésus rachète entièrement ceux qui viennent à lui pour le pardon de leurs péchés, et tous leurs péchés, présents, passés et futurs, sont pardonnés. Le texte rajoute « Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts ». Cet énoncé résume le message de l'Épître aux Hébreux. Lorsque le Seigneur Jésus est retourné auprès de son Père céleste, il a reçu une gloire et une majesté qu'il n'avait jamais eue auparavant. Au ciel, nous trouvons maintenant une chose qui n'était pas là il y a 2500 ans de cela, ou encore dans le passé éternel. Dans la gloire céleste, il y a maintenant un homme avec des cicatrices de clous sur les mains et les pieds, ainsi que les traces d'une blessure de lance dans son côté. Bien que le corps du Seigneur Jésus soit glorifié, les cicatrices sont toujours là, et nous pourrons reconnaître notre Dieu et Sauveur. Il y a 2500 ans, il était Dieu, mais aujourd'hui, il est Dieu fait homme. L'acte rédempteur de Jésus est entièrement accompli. Le texte précise, c'est assis. Le fait que Jésus se soit assis ne signifie pas qu'il était épuisé ou qu'il était oisif. Cela signifie que lorsqu'il a complété son acte rédempteur, il s'est assis parce que son œuvre était complète. C'est ce que signifie le septième jour de la création. Dieu s'est reposé le septième jour, non parce qu'il était épuisé, mais parce qu'il avait achevé son œuvre. John Wesley a dit, lorsque Dieu a créé l'univers, cela n'a pas nécessité toute sa puissance. Il s'est reposé parce que sa création était terminée. Il n'y avait plus rien à y ajouter. Depuis que je suis pasteur, je ne suis jamais rentré à la maison avec l'impression que j'avais terminé mon travail. Il reste toujours des tâches qui ont besoin d'être achevées. Je n'en ai pas terminé une, qu'une autre se présente. Mon travail n'est jamais terminé. Mais le Seigneur Jésus s'est assis parce que son œuvre rédemptrice était achevée. Mes amis, nous ne pouvons rien ajouter à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous racheter et obtenir le pardon de nos péchés. Notre rédemption est entièrement achevée et nous avons tout complètement en Jésus-Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Mes amis, en Christ Jésus, nous avons tout ce qu'il nous faut pour notre salut. Nous sommes acceptés par Dieu parce que nous sommes en son Fils, Jésus-Christ. Jésus exerce toujours un ministère. Le ministère que le Seigneur Jésus exerce présentement est un autre aspect de son œuvre rédemptrice. Un auteur a dit, « Il y a un homme dans la gloire céleste, mais l'Église l'a perdu de vue. » Nous oublions que le Seigneur Jésus est toujours actif présentement. Il est mort sur la croix pour nous sauver, et il est au ciel pour préserver notre salut. Il intercède pour nous auprès du Père céleste. Il est le berger de ses brebis ici-bas sur terre, car il veille sur elles. Il discipline ses enfants pour leur bien, et parce qu'il les aime. Bien qu'il soit présentement à la droite de Dieu, il s'intéresse de près à tout ce qui concerne ceux qui lui appartiennent, et il est disponible pour nous guider et nous secourir. Mes amis, de quoi avez-vous besoin? Avez-vous besoin de miséricorde et de pardon? Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin de sagesse? Qu'importe ce dont vous avez besoin, pourquoi ne vous tournez-vous pas vers votre Seigneur? Si vous lui demandez d'intervenir en votre faveur, il arrangera les choses pour le mieux, mais selon sa volonté et non la nôtre. La prière ne sert pas à convaincre Dieu de faire une chose qu'il ne désirait pas faire, mais à ajuster notre volonté sur celle de Dieu, à nous aider à connaître la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Auprès de lui, nous pouvons obtenir miséricorde et la grâce dont nous avons besoin. C'est le ministère que le Seigneur Jésus exerce présentement. Mes amis, Bouddha ne peut pas vous aider. Un prophète ne peut pas vous aider. Le fondateur d'une religion ne peut pas vous aider. Un ami m'a raconté comment il a été guéri par une dame qui guérissait par la foi. Cette dame est maintenant décédée. « Est-ce qu'elle peut t'aider présentement ?» lui ai-je demandé. « Non, puisqu'elle est morte. » Eh bien, j'ai répondu, « Le Seigneur Jésus est vivant. Notre grand prêtre céleste, notre souverain sacrificateur est toujours vivant. » Présentement, Jésus vit. Les chefs d'État meurent et ne peuvent plus rien faire pour nous. Par contre, l'Épître aux Hébreux nous dit, « Jésus vit. » Il est le seul qui puisse nous aider. Nous pouvons nous tourner vers lui. C'est le message de l'Épître aux Hébreux. Lorsqu'il s'est assis à la droite de Dieu, c'est avec une gloire qu'il n'avait pas auparavant. C'est avec le corps qu'il a utilisé pour purifier l'humanité de ses péchés. C'est le corps qui a servi de rançon pour nous racheter. Oui, chers amis, Jésus s'est donné lui-même. Il a versé son précieux sang afin que nous puissions avoir la vie éternelle. J'aimerais te poser une question. As-tu reçu Jésus-Christ comme ton sauveur? Le sauveur personnel de ton existence et de ton éternité, car il est venu nous racheter de la condamnation qui pesait à notre égard. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit les Saintes Écritures. Christ est mort à ta place. Tu n'as qu'à l'implorer, qu'à te tourner vers lui et à lui demander qu'il vienne te sauver, te racheter. Il a tout payé, entièrement ta dette. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, cette fois les versets 3 à 7. À vous tous, bonne lecture.
Oh, merci beaucoup, Régent. Mes amis, je suis tellement touchée par l'enseignement de la parole de Dieu qu'on a reçu aujourd'hui. Et particulièrement par quelque chose que Régent nous a fait remarquer. J'aimerais vous le répéter. Au fait, j'aimerais le répéter pour moi-même aussi, afin de ne pas l'oublier. Voici ce qu'il a dit. Lorsque le Seigneur Jésus est retourné auprès de son Père céleste, il a reçu une gloire et une majesté qu'il n'avait jamais eue auparavant. au ciel, nous trouvons maintenant une chose qui n'y était pas il y a 2500 ans ou encore dans le passé éternel. Dans la gloire céleste, il y a maintenant un homme avec des cicatrices de clous sur les mains et les pieds, ainsi que les traces d'une blessure de lance dans son côté. Bien que le corps du Seigneur Jésus soit glorifié, les cicatrices sont toujours là et nous pourrons reconnaître notre Dieu et Sauveur. Il y a 2500 ans, il était Dieu, mais aujourd'hui, il est Dieu fait homme. Mes amis, c'est tellement beau, vous trouvez pas? Quand je pense que ces cicatrices de clous dans les mains et les pieds du Seigneur et les traces de la blessure d'une lance dans son côté sont là pour moi et à cause de moi, mes amis, je ne peux faire autrement que me prosterner devant mon doux Jésus pour le remercier, le louer et l'adorer. Et je vais voir ses marques quand j'irai à sa rencontre dans les airs. Je vais reconnaître mon divin Sauveur, mon Seigneur, ce Dieu merveilleux qui s'est fait homme, qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix afin de payer en entier la dette que j'avais envers Dieu pour tous mes péchés. Quel Sauveur merveilleux! J'aimerais qu'il existe un mot plus extraordinaire que merveilleux pour décrire le Seigneur Jésus. Peut-être que je vais l'entendre au ciel. Mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, es-tu aussi touché que moi par le sacrifice de Jésus à la croix? As-tu eu la révélation de Dieu que Jésus avait été crucifié pour toi personnellement? Eh bien, tu n'as qu'à croire au Seigneur Jésus. Croire non seulement qu'il existe, mais qu'il est Dieu et qu'il s'est fait homme pour venir payer ta rançon, pour te libérer de ta prison de péché et te donner la vie éternelle au lieu du châtiment éternel qu'on mérite tous d'ailleurs pour nos péchés, puisqu'on est tous des pécheurs. Paul nous l'exprime dans le 3e chapitre de son épître aux Romains au verset 23. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors mon ami, ne te prive plus de la gloire de Dieu. Ne te prive plus de sa présence un seul instant. En ce moment même, à travers ma petite voix rauque, pas très puissante, le Seigneur Tout-Puissant t'invite à te repentir, à changer de direction à l'égard du péché. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte. Invite Jésus à entrer dans ton cœur. Reçois-le comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, comme ton Maître, et dis-lui, « Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. » C'est aussi simple que ça. Demande-lui maintenant. Il va transformer ta vie. Il va te donner une vie nouvelle. Tu vas naître de nouveau. Tu vas être un enfant de Dieu, sous la protection divine, jusqu'au jour où il va venir te chercher pour t'amener avec lui, pour vivre au ciel éternellement. Mon ami, reçois Jésus, reçois-le maintenant.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Pour en faire la correction,
parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.